VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 2 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Niger, importante attaque hier contre un camp militaire dans la zone d'Inates, près de la frontière avec le Mali.
Un Rwandais lié au génocide de 1994 dans son pays a été condamné à Boston, ici aux États-Unis, pour fraude à l'immigration.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est rendu en Ituri, une province du Nord-Est traumatisée par des massacres de civils début juin.
En République centrafricaine, première rencontre hier entre le chef du gouvernement et la plateforme Ezingo Biani de l'opposition.
Téhéran déroge à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Le président américain Donald Trump l'accuse de jouer avec le feu.
Ne manquez pas, en sport, notre journal de la CAN. Pour l'instant, le journal.
Au Niger, le camp militaire d'Inates, localité située près de la frontière malienne, a été attaqué hier par des hommes armés venus à bord de véhicules et de motos. Le bilan, lourd selon des sources de VOA Afrique, n'est pas encore officiellement annoncé. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon plusieurs sources locales, c'est en début d'après-midi de ce lundi que des hommes armés ont lancé un assaut contre la position militaire de reconnaissance de la localité d'Inates. À bord de deux véhicules, un premier groupe pénètre dans le camp et se fait exploser. Il est suivi par d'autres hommes armés venus cette fois-ci à bord de motos et qui ont commencé à tirer à l'aide d'armes de petit calibre. Aucune source officielle, militaire ou civile, n'a communiqué sur cette attaque dont le bilan serait lourd, d'importantes pertes en vies humaines, des blessés et du matériel emporté. La zone d'Inates n'est pas loin du lieu où, en début du mois de mai dernier, une embuscade tendue à des militaires nigériens a fait une trentaine de morts. Cette attaque intervient à exactement une semaine de la tenue du sommet de l'Union africaine à Niamey, la capitale. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Mali, retour sur l'attaque de dimanche perpétrée par des hommes armés contre trois villages du centre du pays, près de la frontière burkinabé. Au moins 23 civils ont été tués. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, des hommes armés ont attaqué les villages de Bidi, Sankoro et Saran, tuant 23 civils, d'après Haruna Sankare, maire de Winkoro. Il a fait état hier de nombreux déplacés et a accusé des chasseurs traditionnels d'Ozo. Par ailleurs, dans le cercle de Koro, dans la même région, 11 personnes à bord d'une moto-tricycle ont été tuées dimanche par un engin explosif non loin de la frontière du Burkina Faso. Le 17 juin, des attaques visant les villages de Danfani et de Yoro, imputées à des éléments Peul, avaient fait 41 morts. Les violences qui déchirent cette région depuis 4 ans ont culminé avec le massacre le 23 mars attribué à des chasseurs Dogon de quelques 160 000 Peul à Ogossagou, toujours près de la frontière avec le Burkina Faso. Malgré les présences de l'armée malienne, de la force du G5 Sahel, de l'opération française Barkhane et de la MINUSMA, les violences se poursuivent dans le centre du pays et touchent également le Burkina Faso et le Niger voisin.
Un Rwandais lié au génocide de 1994 a été condamné hier par un juge fédéral de Boston, ici aux États-Unis, à plus de 8 ans de prison pour fraude à l'immigration et parjure. Jean-Léonard Tegagna, 47 ans, a été reconnu coupable en avril de 2 chefs d'accusation de fraude à l'immigration et de 3 chefs d'accusation de parjure, selon un communiqué du département de la justice. Il a menti sur son statut de criminel de guerre pour obtenir l'asile aux États-Unis, a dit le procureur Andrew Lelling.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est rendu hier à la rencontre des déplacés de l'Ituri au deuxième jour de sa visite dans cette province du Nord-Est traumatisée par des massacres de civils début juin. M. Tshisekedi est allé dans le territoire de Djougou où, selon les Nations Unies, des criminels, des meurtriers, des assassins ont tué des femmes et des enfants, entraînant la fuite de milliers de personnes. Une opération militaire de grande envergure, selon le président congolais, a été lancée contre une milice armée appelée Ngudjolo, pointée du doigt par les autorités.
RDC toujours, la police congolaise a démenti hier l'information qu'elle avait elle-même donnée la veille, selon laquelle un manifestant avait été tué par balle dimanche à Goma au cours de la dispersion d'une marche de l'opposition interdite par les autorités. L'homme est actuellement admis en soins aux urgences, a précisé la police dans un communiqué.
En République centrafricaine, première rencontre hier entre le chef du gouvernement et la plateforme de l'opposition dénommée Ezingo Biani, après plusieurs semaines de tensions. Malgré la main tendue de l'exécutif, les leaders de ce mouvement maintiennent leurs revendications, dont l'arrestation de certains chefs de groupes armés. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
C'est la première fois que les deux protagonistes se réunissent autour d'une même table pour discuter de leurs différends. Le chef du gouvernement, jouant à l'apaisement, a expliqué au leader du mouvement Front Uni pour la défense de la patrie, Ezingo Biani, les raisons de l'interdiction de leur meeting dans les 8e et 6e arrondissements de Bangui, Firmin Ngribada.
Je tiens à vous affirmer que le gouvernement comprend vos réactions résultant des désagréments causés par ces interdictions, lesquelles étaient justifiées par le souci de préserver l'ordre.
Après presque une heure d'échange, les lignes n'ont pas bougé. L'opposition maintient ses revendications, parmi lesquelles l'arrestation de certains chefs des groupes armés. Gervais Lakosso, coordonnateur général du mouvement Front Uni pour la défense de la nation, Ezingo Biani.
Quand nous demandons qu'on débarque du gouvernement, les mercenaires, les chefs de guerre qu'on a nommés pour faire la paix mais qui ne font pas la paix, ce n'est pas négociable, ce n'est pas impossible. Et quand on demande qu'on arrête ceux qui ont tué le peuple centrafricain après l'accord de Khartoum, ça non plus, c'est quelque chose de difficile à obtenir de la part du Premier ministre et du Président de la République.
La rencontre s'est terminée sans compromis formel, mais le Premier ministre a promis revenir vers Ezingo Biani après avoir rendu compte de ses préoccupations au chef de l'État. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU se dit préoccupé du dépassement par l'Iran de la limite imposée à ses réserves d'uranium enrichi. Antonio Guterres estime que cette action n'aidera pas à préserver l'accord nucléaire de 2015. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le porte-parole d'Antonio Guterres encourage l'Iran à continuer à appliquer tous ses engagements nucléaires prévus par l'accord, alors que ses participants continuent de chercher des moyens pour répondre aux défis considérables auxquels fait face le pays. Pour Stéphane Dujarric, il est essentiel que cette question du stock d'uranium enrichi, comme les autres liées à l'application de l'accord nucléaire, soit gérée par le mécanisme déjà établi. L'Iran avait annoncé le dépassement de la limite des 300 kg d'uranium faiblement enrichi auquel a droit ce pays. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé hier le dépassement de la limite imposée par le pacte. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé les pays européens à sanctionner l'Iran. « Vous vous êtes engagé à agir dès que l'Iran violerait l'accord nucléaire », a rappelé M. Netanyahou dans un communiqué. Les États-Unis, qui sont sortis de l'accord, ont récemment renforcé leurs sanctions contre Téhéran.
Et l'Iran joue avec le feu, a réagi dans un premier temps le président Donald Trump auprès de journalistes à la Maison-Blanche. Ils savent très bien ce qu'ils font, ils connaissent actuellement de nombreuses difficultés dans leur pays, a ajouté le président dans un entretien à la chaîne Fox News, diffusé lundi soir, espérant voir Téhéran étranglé par les sanctions, revenir à la table des négociations et demander à nouer un accord. La Maison-Blanche a par ailleurs réaffirmé sa volonté de poursuivre sa campagne de pression maximale sur l'Iran.
À Hong Kong, le chef ou la chef du gouvernement local, Carrie Lam, a condamné aujourd'hui ce qu'elle a appelé l'usage extrême de la violence par les manifestants anti-Pékin qui ont occupé et saccagé pendant plusieurs heures le Parlement du territoire. La crise qui secoue Hong Kong depuis 3 semaines a franchi un nouveau palier avec ces événements survenus lundi, jour anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine en 1997. Dans la nuit de lundi à mardi, la police anti-émeute a finalement repris le contrôle du Parlement local.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo pour le journal de la Cannes.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal de la Cannes. Les groupes E et F vont clore les matchs de la phase de poule ce soir. À 16h, temps universel, le Bénin jouera contre le Cameroun. Les écureuils sont toujours à la recherche de leur première victoire en phase finale de Cannes et comptent tout donner pour l'obtenir.
Bien sûr qu'on a beaucoup de respect pour cette équipe du Cameroun, c'est le champion d'Afrique qu'on affronte. On a du respect, mais on n'a pas de crainte non plus. Tous les matchs, on les joue pour les gagner. Même si c'est des adversaires d'un calibre qui sont supérieurs au nôtre, et le Cameroun est d'un calibre supérieur au nôtre. Mais chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour gagner le match. Et ce sera encore le cas demain. Aborder le match le Cameroun, c'est sans pression, quoi. Juste la pression de faire un bon match. Et puis, si on fait un bon match, on a toutes les chances d'obtenir un bon résultat. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est de rentrer la tête haute à Cotonou.
Michel Dussieux, coach du Bénin. Les Béninois attendent beaucoup de leur attaquant Steve Mounier, qui ne se met pas la pression et qui dit privilégier le collectif à son propre rendement.
Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes à mon égard au Bénin. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on gagne ce match. Peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui marque, ce qui prime, c'est le collectif. Je suis pas là pour finir meilleur buteur de la CAN, je suis là pour aider le Bénin à aller le plus loin possible dans cette compétition.
En face, les Lions Indomptables prennent leurs adversaires au sérieux.
On a vu leur match contre le Ghana, ils ont fait un très gros match. On est conscient que dans ce groupe-là, le Bénin a toutes ses chances de passer. Mais nous, on va rester dans la lignée de ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir rester sérieux, concentré ensemble. Et on va essayer d'imposer notre style au Bénin. Et on sait qu'on a besoin d'un point, mais on est ambitieux. Et on va pas jouer contre le Bénin pour avoir un point, on va jouer contre le Bénin pour avoir les trois points.
Stéphane Baouken, attaquant camerounais, toujours dans ce groupe F à la même heure. La Guinée-Bissau et le Ghana seront aux prises. À 19h, temps universel, la Tunisie, toujours pas qualifiée, voudra arracher son ticket pour les huitièmes de finale devant la Mauritanie. Le sélectionneur des Aigles de Carthage dit ne pas négliger les Mourabitounes. Alain Girès.
Affronter un adversaire contre la Mauritanie, c'est le prendre avec beaucoup de sérieux, de préparation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Surtout pas négliger. On sait que le match est important. On en a conscience et justement, la préparation est axée sur ce match et l'importance qu'il a.
Dans cette même poule E, le Mali fera face à l'Angola à 19h, temps universel. Ce sera finalement la Côte d'Ivoire qui accompagnera le Maroc en huitième de finale dans le groupe D. Les éléphants se sont imposés dans leur finale face à la Namibie battue 4-1. Côté ivoirien, les buts ont été signés Max-Alain Gradel, Wilfried Zaha, Maxwell Cornet et Sérédier qui dit savourer sa victoire.
On ne va pas faire la fine bouche parce qu'on a gagné 4-1. C'est vrai qu'on a des choses à corriger. Maintenant, aujourd'hui on a gagné, on va savourer, mais dès demain on commence à bosser.
Dans l'autre rencontre du groupe B, le Maroc déjà qualifié s'est contenté du service minimum face au Bafana de l'Afrique du Sud battu 1-0. Les Lions de l'Atlas terminent ainsi premier de la poule D devant la Côte d'Ivoire deuxième. La Namibie et l'Afrique du Sud sont éliminés. Le scénario était identique pour les Lions de la Teranga qui ont aussi réussi à s'imposer 3-0 devant le Kenya pour finir à la deuxième place du groupe C, qualificative pour les huitièmes de finale. La première place est occupée par les Fenech algériens qui ont dominé la Tanzanie sur le même score de 3-0. L'Algérie aligne ainsi 3 victoires en 3 matchs. Le Maghreb s'en sort mieux dans cette phase de poule, comme nous le dit Jules Valentin Ngoué dans son coup de sifflet depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. 10 jours après le début de la compétition, le grand constat est sans conteste la domination des équipes du nord du continent qui semblent avoir marqué leur territoire. Sur les 11 matchs joués contre les formations subsahariennes, l'Afrique du Nord en a gagné 9 et juste concédé 2 nuls. L'analyse de la qualité de la production est encore plus probante. Comme souvent, l'avantage de l'Afrique du Nord a reposé sur la technique individuelle et collective de formation acquise à un football latin fait de précision et d'automatisme, là où leurs homologues du sud du Sahara, moins spontanés, n'ont à opposer que la pression physique et la vitesse. Si la Tunisie, plus fragile, a dû partager les temps forts avec l'Angola et le Mali, le Maroc comme l'Égypte, plus solide et équilibré, ont fait valoir leur supériorité technique devant la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Ouganda et l'Afrique du Sud, et même si les pharaons ont paru un peu Salah dépendants. C'est l'Algérie qui a rendu la copie la plus parfaite en dominant le Sénégal lors de la seconde rencontre, même dans le domaine qui lui semblait acquis, comme la puissance physique, la bataille des airs, les duels ou la vitesse. En cela, elle rejoint la grande équipe d'Égypte de 2006-2010 qui, en réussissant cet amalgame, avait gagné 3 CAN d'affilée. La large victoire contre la Tanzanie, malgré un turnover, confirme son statut de favori. Mais rien n'est encore joué. Les défaites d'aujourd'hui peuvent préparer les succès de demain. Comme ce fut le cas pour le Cameroun en 84 et l'Égypte en 86, qui perdirent le premier match avant de brandir le trophée. D'ailleurs, le Sénégal s'est bien repris face au Kenya en l'écrasant par 3-0. En attendant, suite et fin de la phase de poule dans le groupe E et F, où la Tunisie, l'Angola et le Ghana sont en quête de rachat ce mardi.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'importante attaque d'hier au Niger contre une base de l'armée nigérienne dans la zone d'Inates, près de la frontière du Mali. Une attaque perpétrée à l'aide de véhicules kamikazes dans la même zone où 18 combattants du groupe État islamique dans le Grand Sahara ont été tués lors d'une opération conjointe des forces armées nigériennes, françaises et américaines menée du 8 au 18 juin dans l'ouest du Niger. Pour Moussa Aksar, journaliste expert des questions de terrorisme, tout laisse à croire qu'il s'agit d'une attaque de représailles. Joint à Niamey par Bagasukura, Moussa Aksar.
C'est là qu'il y a eu, si vous vous rappelez, une opération militaire qui a duré plusieurs jours où la force Barkhane, ses alliés du Mali et du Niger se sont entendus pour porter le coup aux djihadistes qui se trouvent être dans cette zone-là, dans une forêt. Et là, ils ont fait plus de 18 morts, et 18 morts selon les autorités. Et donc, il fallait s'attendre vraiment à une attaque de ces djihadistes-là dans cette zone-là parce que c'était une opération chirurgicale qui leur a été menée par la force Barkhane et ses alliés du Niger et du Mali.
Alors donc vous êtes en train de dire que cette attaque ce lundi ressemble bien à une opération de représailles?
Oui, c'est une action de représailles parce que, si vous vous rappelez, un coup leur a été porté et ils voulaient mener une action d'éclat pour avant les cérémonies de l'Organisation de l'Unité africaine qui doit se tenir ici à Niamey. Ils voulaient faire un coup d'éclat. C'est pour cela qu'ils ont cherché à attaquer des postes isolés pour faire plus de mal. Et là, nous attendons vraiment le bilan du gouvernement. En ce moment, nous allons nous soutenir beaucoup plus d'analyses sur cette question-là.
Et pourquoi est-ce que les forces de ces pays-là, Burkina, Mali, Niger, Barkhane et aussi le G5, n'arrivent pas à bloquer les mouvements au niveau de cette frontière Mali-Niger-Burkina?
Bon, vous savez, il y a des actions à mener. Il y a les actions civilo-militaires, les actions sociales qu'il faut mener dans ces zones-là, puisque les gens sont dans une situation difficile. Aussi, ça fait un bout de temps qu'ils étaient à la merci de ces terroristes-là. Les États Mali, du Niger et du Mali n'étaient pas présents dans cette zone comme on le voulait, mais aussi les actions militaires doivent être menées avec plus d'énergie, surtout ne pas laisser la place à ces djihadistes-là pour qu'ils viennent occuper le terrain qu'ils ont perdu. Et c'est ce qui s'est passé tout récemment. Ce qui s'est passé à Tongo Tongo 1, 2, plus Inates, vous rappelez que même le chef de cette localité a été tué par les terroristes il y a de cela un mois.
Quand on regarde au Burkina Faso, il y a des affrontements intercommunautaires. Au Mali, il y a des affrontements entre Dogon et Peul. Comment se présente la situation de l'autre côté au Niger là-bas?
Oui, il y a eu des affrontements. Il y a un an de cela aussi dans cette zone d'Inates entre agriculteurs et éleveurs. Tout ça, ça a un support, c'est une spirale de violence qui peut avoir des conséquences. Et ça, les terroristes profitent de cette spirale de violence entre les communautés pour pouvoir s'installer, ce qui les arrange, c'est toujours ça. Et il faut se poser la question, est-ce que des fois, c'est quand même pas eux qui sont derrière toute cette spirale de violence entre les communautés qui vivaient paisiblement dans cette zone-là?
Joint hier à Niamey, Moussa Aksar, directeur du journal L'Indépendant et expert des questions de terrorisme.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Et dans le centre du Mali, une dizaine de civils peuls ont été tués dimanche à Wankoro, une localité proche du Burkina Faso. Le groupe d'Ananambasagou, affilié aux chasseurs traditionnels Dogon, a annoncé il y a quelques jours son désengagement du cessez-le-feu observé depuis plus d'un mois. Sur le dernier bilan de cette dernière attaque, Idriss Fall a joint hier, lundi, le maire de Wankoro, Haruna Sankaré.
Le premier bilan que les populations nous ont donné s'élève à 23 morts, mais l'armée s'est rendue là-bas. On nous parle encore de 12 morts, donc nous sommes en train de voir la véracité de la situation. Hier, aux environs de 14 heures, les chasseurs sont arrivés en moto. Ils ont encerclé le village de Saran et ils ont procédé à des tirs. Nous avons fait appel à l'armée. Malheureusement, l'armée est arrivée sur le terrain aux environs de 17h. Ils ont trouvé que des dégâts ont été déjà faits. Après, l'armée s'est retournée à Wankoro pour attendre les renforts. Ce matin, ils sont repartis sur les lieux. Donc, les chasseurs ont attaqué plusieurs villages à la fois.
Combien de villages? On nous parle de 300 disparus.
Le village de Sankoro, le village de Bidi. Effectivement, il y a plusieurs déplacés. Tous les villages environnants sont déplacés vers le chef-lieu de la commune, Wankoro, et d'autres sont partis vers le Burkina.
C'était des villages Peul, c'était des villages Dogon.
Les villages attaqués sont des villages Peul. Le village de Saran cohabite avec des Dogons, mais c'est le quartier Peul qui a été attaqué. Les populations Dogon et Peul sont en train de déserter les villages parce que cette crise n'est pas une crise des Dogon Peul, mais ce sont des milices Dogon et Peul qui ont pris la population en otage parce que les deux communautés vivent la même terreur.
Il y a quelques jours, c'était 35 Dogons qui ont été massacrés dans leur hameau. Aujourd'hui, ce sont des Peul. Est-ce que vous ne craignez pas quelques débordements ethniques?
Effectivement, nous craignons beaucoup parce que beaucoup de Dogons sont en train de déserter en ce moment parce que hier c'était des villages Peul qui ont été attaqués. Demain, on ne sait pas, ça serait le tour de quel village. Donc, toutes les communautés ont pris peur. C'est la raison pour laquelle tous les villages sont en train de déserter.
De l'autre côté, vers le Burkina, c'est le même phénomène aussi. Il y a les Kogleweogo qui s'attaquent à d'autres populations. Est-ce que ce n'est pas l'absence de l'État dans ces régions qui fait que les milices de plus en plus occupent ce vide?
Quand des populations ne sont pas protégées par les États, ça se passe toujours comme ça. C'est des individus qui prennent des armes, soi-disant, pour protéger leur village ou leur communauté. Et après, ça devient quelque chose de terrible comme ça. Ceux qui ont pris des armes pour dire qu'ils vont protéger leur communauté ou leur village, ce sont eux qui sont en train de commettre tous ces crimes. Donc, non seulement c'est l'absence de l'État, mais aussi l'abandon total de l'État.
Haruna Sankaré, maire de Wankoro, joint hier lundi dans le centre du Mali.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, réunis samedi à Abuja, au Nigeria, ont adopté formellement le nom d'ECO pour le projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest et sa création est prévue dès 2020. L'ECO devra remplacer le franc CFA et sera aussi utilisé par le Nigeria, le Ghana et la Guinée, ayant actuellement leur monnaie nationale. Est-ce possible la création de l'ECO dès 2020? Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'économiste et analyste politique Gilles Olakunle-Yabi.
Qu'il faut voir d'abord dans la création d'une monnaie unique dans l'espace ouest-africain une volonté d'uniformisation ou en tout cas d'harmonisation des politiques économiques et notamment de la politique monétaire. Mais je crois que c'est un acte politique effectivement avant d'être un acte économique. Est-ce qu'il est suicidaire pour les économies? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a bien sûr des problèmes de convergence économique et qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Je ne pense pas que l'échéance de 2020 soit raisonnable. Mais par contre, je pense que politiquement, c'est important de signifier une volonté d'aller vers cette intégration monétaire qui doit être dépendant d'une intégration économique et d'une intégration politique forte.
Une monnaie, c'est un outil politique. On a vu le retrait de la Guinée du franc CFA, les conséquences sur l'économie de la Guinée. Est-ce qu'ils auront la capacité politique pour gérer cette nouvelle monnaie?
On le verra à l'œuvre. Il est certain que ce n'est pas gagné et que ce n'est pas évident de gérer une monnaie commune dans un espace aussi diversifié en termes de solidité et de spécialisation des économies nationale et également avec beaucoup de déséquilibres dans un pays comme le Nigeria qui représente plus de la moitié du PIB de la région. Donc c'est sûr qu'il y a des défis importants. La vraie question, c'est bien sûr toujours la question des ressources humaines, de la capacité au niveau des économistes de mettre en place tous les outils qu'il faut pour gérer une monnaie commune et en même temps au niveau politique d'avoir la structuration qui permet de garantir la solidarité entre les pays de la région et qui permet d'avoir un mécanisme de décision politique qui soit également tenable.
Vous pensez que la population de la zone CEDEAO est prête pour entrer dans cette nouvelle phase?
Je crois que ce qui est important, c'est de faire en sorte que justement les populations se sentent concernées par cet agenda. Il faut assumer le fait que l'agenda d'une monnaie commune est fait partie de l'agenda d'une intégration politique, économique et d'une CEDEAO des peuples, puisque c'est aussi cela l'agenda. Et donc je crois qu'il faut lier absolument l'élément monétaire à l'élément de progrès économique et social et montrer en quoi une monnaie unique peut faciliter les échanges au sein de la région et en quoi est-ce qu'une augmentation des échanges commerciaux peut stimuler la production, stimuler l'emploi et finalement stimuler l'amélioration du bien-être collectif. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu, mais pas simplement un enjeu à nouveau de monnaie unique pour affirmer une souveraineté.
C'était l'économiste et analyste politique Gilles Olakunle-Yabi, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, la législation sur le tabac a été renforcée avec l'entrée en vigueur ce 1er juillet d'une nouvelle réglementation. Désormais, les paquets de cigarettes devront, par exemple, afficher des images de personnes atteintes de maladies dues au tabagisme. C'est l'aboutissement d'une campagne anti-tabac menée depuis des années par des associations. Des précisions à Ouagadougou avec notre correspondant Issa Napon.
Votée depuis 2016, l'application de cette nouvelle loi qui réglemente les conditions de présentation des paquets de cigarettes avec des images très graphiques se faisait attendre. La lutte de longue haleine est portée par l'ONG Akonta, Afrique contre le tabac, fer de lance de la lutte contre le tabagisme au Burkina Faso. Salif Nikema en est le coordonnateur.
Cette mesure-là devait entrer en vigueur en 2016 parce qu'il y a un décret qui a été pris donc pour définir un peu les modalités sur le conditionnement étiquetage des produits du tabac. Mais l'industrie du tabac s'était opposée, elle ne voulait pas vraiment appliquer cette mesure-là. Mais avec le plaidoyer que nous avons mené, nos autorités ont pris l'engagement vraiment de faire appliquer cette loi-là sur la position des avertissements sanitaires.
Ce n'était pas un combat gagné d'avance, reconnaît Abdelwahab Nombré, secrétaire exécutif du réseau des journalistes anti-tabac.
Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Ça donne également l'impression que le gouvernement a compris l'action des organisations de la société civile qui ont plaidé pour que les mesures qui ont été votées depuis 2010 dans la loi anti-tabac soient appliquées par palier.
Sur les 7 millions de décès dans le monde pour tabagisme, 4800 sont enregistrés au Burkina Faso avec une prévalence de 19,8% selon une étude STEPS réalisée par le ministère burkinabé en charge de la santé en 2013. Les conséquences assez dramatiques dont nous parle le docteur Aboubakar Bambara, cancérologue, chef de service oncologie clinique dans un district sanitaire de la capitale.
Il faut dire que le tabac contient plusieurs molécules et je vais beaucoup plus m'attarder sur les conséquences dans le domaine du cancer. Le tabagisme est vraiment un facteur de risque important. Très reconnu dans la survie d'un certain nombre de cancers, je cite en première position le cancer de poumon. Il y a aussi comme cancer les cancers donc de la cavité buccale, tout ce qui passe dans la bouche, le cancer du larynx, tout ça, ça est dans la gorge, le cancer de l'œsophage supérieur, sans oublier le cancer de la vessie. Mais il faut dire que c'est tout un groupe de 16 cancers dont on a retrouvé donc l'incrimination comme facteur de risque du tabagisme. Nous pensons que les étiquettes vont pouvoir jouer un rôle, mais il faut qu'on intensifie donc la prévention pour la lutte contre le tabagisme, surtout en milieu scolaire et en milieu jeune. Plus on commence à fumer très tôt, plus on est exposé.
Pour toutes ces raisons sanitaires, les acteurs dans la lutte contre le tabagisme veulent rester vigilants dès ce 1er juillet. Salif Nikema, coordonnateur de Afrique contre le tabac.
À la date du 1er juillet, les paquets qui ne sont pas conformes devaient être saisis et détruits, ce qui est recommandé.
La brigade mobile du ministère en charge du commerce se tient prête à effectuer le travail de vérification terrain sur l'application d'une mesure considérée comme une grande victoire d'étape dans la lutte contre le tabagisme au Burkina Faso. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.